Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre Consoles Museum, la grande encyclopédie des consoles de jeux vidéo, est un ouvrage de référence consacré à l'histoire des consoles de jeux vidéo, des premières machines apparues au début des années 1970 jusqu'aux générations les plus récentes. Publié sous la signature de Florent Gorge, spécialiste reconnu du patrimoine vidéoludique, le livre adopte une forme encyclopédique plutôt qu'un récit continu. Son objectif est de recenser, décrire et contextualiser un très grand nombre de consoles de salon et portables en mettant l'accent sur leurs caractéristiques techniques, leur place dans l'évolution du marché et les jeux qui les ont marqués. Richement illustré et conçu comme un guide de consultation, il s'adresse autant aux passionnés qu'aux collectionneurs et aux lecteurs qui souhaitent comprendre comment les machines de jeu ont façonné la culture vidéoludique Azure, la durée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une encyclopédie panoramique couvrant plus de 450 consoles, le principal intérêt du livre tient à son ambition de recensement. Il ne se limite pas aux machines les plus connues, mais cherche à embrasser l'ensemble d'une histoire matérielle extrêmement vaste, depuis les consoles pionnières de 1972 jusqu'au système contemporain. Cette ampleur change la lecture habituelle de l'histoire du jeu vidéo, souvent centrée sur quelques marques dominantes, car elle remet dans le champ les machines oubliées, marginales ou très locales. Le choix encyclopédique produit un effet de cartographie. Le lecteur peut mesurer la diversité des formats, des stratégies commerciales et des publics visés. En ce sens, l'ouvrage ne sert pas seulement à identifier des consoles. Il aide à comprendre la densité d'un marché qui a produit bien plus d'objets qu'on ne l'imagine généralement. Le livre fonctionne donc comme une base de référence pour comparer les générations entre elles et repérer les continuités ou les ruptures majeures. Deuxièmement, une lecture historique de l'évolution des consoles depuis 1972, le livre adopte une organisation chronologique qui permet de suivre l'évolution du médium par étapes successives. Cette approche est essentielle, car elle montre que la console n'est pas un objet figé, mais un support qui se transforme sous l'effet des progrès techniques, de la concurrence industrielle et des usages domestiques. En plaçant les machines dans leur époque, l'ouvrage rend visible les bascules importantes passages de systèmes simples à des architectures plus puissantes, montée en complexité du support de stockage, apparition du jeu portable, puis diversification des écosystèmes de jeux. L'intérêt de cette perspective est qu'elle évite de réduire l'histoire à une liste de modèles. Chaque console prend sens dans une chaîne d'innovation, d'échecs commerciaux et de réussites culturelles. Pour le lecteur, cela permet de mieux comprendre pourquoi certaines machines sont devenues des repères historiques, tandis que d'autres sont restées à la marge malgré des idées intéressantes. Troisièmement, des fiches techniques et des repères concrets pour chaque machine. L'ouvrage repose sur une logique de fiches, ce qui en fait un outil pratique autant qu'un livre de lecture. Les consoles y sont présentées à travers leurs caractéristiques techniques, leur contexte de sortie et les jeux emblématiques qui leur sont associés. Cette combinaison est importante, car elle relie la machine à son usage réel. Une console ne se résume pas à ses spécifications. Elle se définit aussi par son catalogue et par la manière dont elle a été reçue. En mettant ensemble technique, histoire et titres marquants, le livre donne au lecteur des critères de comparaison concrets. Cela en fait un support utile pour identifier une machine, situer sa génération ou comprendre ce qui a fait sa singularité. Cette méthode favorise aussi une lecture transversale. On peut observer comment certaines innovations ont été reprises, abandonnées ou standardisées au fil du temps. Le livre se distingue ainsi par son utilité documentaire, particulièrement appréciable pour les collectionneurs et les amateurs de patrimoine vidéoludique. Quatrièmement, une valorisation des consoles rares et oubliées du patrimoine vidéoludique. Au-delà des grandes marques comme Nintendo, Sega ou Sony, le livre accorde une place importante aux consoles moins connues. C'est un point distinctif majeur, car l'histoire des jeux vidéo est souvent racontée à partir des vainqueurs du marché. Ici, l'intérêt patrimonial est assumé, les machines oubliées ne sont pas présentées comme de simples curiosités, mais comme des témoins d'une période d'expérimentation intense. Cette attention élargit la compréhension du secteur en montrant que de nombreux acteurs ont tenté d'inventer d'autres modèles de jeux, d'autres formats ou d'autres positions commerciales. Le lecteur découvre ainsi que l'innovation ne vient pas uniquement des consoles devenues dominantes. Pour un public de collectionneurs, cette dimension est particulièrement utile, car elle donne des repères sur des systèmes rarement documentés ailleurs. Pour un lecteur curieux, elle offre une vision plus juste de la diversité industrielle et culturelle du jeu vidéo, au lieu d'une histoire simplifiée autour de quelques succès célèbres. En dernier lieu, un ouvrage illustré qui combine consultation visuelle et mémoire culturelle, le livre se distingue aussi par son format abondamment illustré en couleurs, qui renforce sa dimension de consultation. Les images ne servent pas seulement à embellir l'ensemble, elles sont indispensables pour saisir la forme des appareils, la variété des designs et la matérialité des objets, dans un domaine où l'apparence des machines compte autant que leur performance. Cette richesse visuelle constitue un vrai outil d'identification. Elle donne également au livre une valeur de mémoire culturelle en rapprochant le lecteur d'objets parfois disparus du marché ou devenus difficiles à voir autrement que dans des collections privées. L'effet produit est double. D'un côté, le lecteur bénéficie d'un repérage rapide et concret. De l'autre, il accède à une forme de conservation symbolique du patrimoine vidéoludique. Cette articulation entre documentation et image explique pourquoi l'ouvrage intéresse autant les amateurs de jeux vidéo que ceux qui s'intéressent à l'histoire du design, aux objets techniques ou à la culture matérielle contemporaine. En conclusion, Consoles Museum, la grande encyclopédie des consoles de jeux vidéo, s'adresse d'abord aux passionnés de jeux vidéo, aux collectionneurs, aux chercheurs en culture vidéoludique et à tous ceux qui veulent disposer d'une vue d'ensemble fiable sur l'histoire des consoles. Son principal apport est de transformer un sujet souvent traité de manière fragmentaire en une référence structurée, richement illustrée et facile à consulter. Le lecteur y gagne une meilleure compréhension des grandes familles de consoles, des évolutions techniques et de la place des machines oubliées dans l'histoire générale du médium. Le livre se distingue des ouvrages plus narratifs ou plus centrés sur une seule marque par son ambition encyclopédique et par sa volonté d'inclure un spectre très large de systèmes, du plus célèbre au plus confidentiel. Cette couverture étendue en fait un outil particulièrement utile pour comparer, identifier et contextualiser. Il est donc recommandé à ceux qui cherchent à la fois un livre de référence, un support de découverte et un panorama sérieux du patrimoine des consoles. Si vous souhaitez soutenir Florent Gorge, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.